Il est 18h10 sur France Culture.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans ce magazine des industries culturelles et du numérique, mais aussi des médias et de la politique culturelle. Soft Power, 15e saison, tous les dimanches soirs, 18h10 à 20h en direct. Le Covid est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique, culturelle et sociale. Nous sommes peut-être en train de vivre une transformation majeure de notre économie, de notre vie collective, qui atteint des pans entiers de la société, l'école, le commerce, le travail, mais aussi les banques ou les assurances. Ce soir, mon invité est justement le banquier Nicolas Théry, à la tête du Crédit Mutuel, l'une des principales banques françaises, mais aussi l'une des principales sociétés d'assurance. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Frédéric Martel.
Alors avec vous, on va tenter d'analyser les changements en cours de comportement des Français, le basculement numérique inédit hein, de cette année 2020, le travail à domicile qui s'est généralisé, tout ça à partir de votre connaissance pointue, fine de vos clients. On parlera de l'épargne des Français, de la dette, comment la rembourser, des banques qui sont de plus en plus en ligne et numériques, au risque parfois de favoriser les néobanques, des GAFA qu'il faut réguler si on veut pas tout que notre banque future soit Google Bank ou notre monnaie la Libra hein, ou le Diem, la monnaie de Facebook, et puis l'écologie comme sujet transversal de cette grande mutation en cours, mutation de l'année 2020. Vous êtes prêt pour évoquer tous ces sujets, Nicolas Théry ?
Je vais essayer, sous votre contrôle.
Nous aurons également sur ces sujets une néobanque avec nous par téléphone. Ce sera Conto avec son cofondateur et directeur général Alexandre Pro. Politique culturelle et Covid ensuite avec Zoé Sfez en début d'émission. Au moment où les milieux culturels, on l'a dit il y a un instant, critiquent leur confinement prolongé avec des pratiques culturelles des Français qui changent. Et avec Emmanuel Paquette, nous reviendrons quant à lui sur le streaming privilégié par Disney ou HBO, au grand dam des patrons de salles de cinéma. 19h30, je reçois ce soir dans le Village Global notre séquence internationale François Hesbourg qui publie Le Temps des Prédateurs. Les prédateurs, ce sont les Chinois, les Américains et les Russes. Et les victimes, eh bien, ce sont nous, pauvres Français, pauvres Européens. 19h45, Guillaume Erner et son super fail. Ce soir, l'échec amoureux, sa vie, son œuvre. On vous parle également au sommaire de cette émission ce soir de Fox News qui a divorcé avec Donald Trump, de Bob Dylan qui se marie avec Universal et dans le box-office de Sylvain Tesson qui s'est enlacé de lui-même. L'émission est réalisée ce soir par Doria Zénine avec en régie Nasser Moussaoui. Cette émission a été préparée par David Pata avec Nicolas Gastineau. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power et bien sûr en vous abonnant au podcast chaque semaine, à réécouter sur franceculture.fr et sur la nouvelle application Radio France de votre smartphone. C'est le magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power en direct jusqu'à 20h. Vous avez le programme. C'est parti. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. To Sell Out, la critique la plus dévastatrice des années 60, en tout cas pour un artiste un peu hippie ou contre-culturel, c'était ce verbe, to sell out, en français, se vendre. Or, c'est précisément ce que vient de faire Bob Dylan, l'artiste symbole de la contre-culture des années 60. Il a vendu la quasi-intégralité de son œuvre à Universal ce lundi pour un montant estimé à 300 millions de dollars. La major de la musique, une major française au demeurant, n'a pas confirmé la somme exacte. Alors, 600 chansons de Bob Dylan sont en jeu et elles sont concernées par ce méga deal avec notamment des titres emblématiques comme Blowing in the Wind, The Time They Are a Changing ou Just Like a Woman que l'on écoute en ce moment. Et concernée par ce deal, l'édition musicale, l'œuvre elle-même, ses paroles et sa partition, ses partitions et non pas la branche artiste d'Universal, c'est-à-dire celle des enregistrements studio. Les droits concernés sont donc liés aux futures reprises, adaptations et non pas à l'interprétation initiale de Bob Dylan, ses albums restant en effet quant à eux chez Columbia qui appartient à Sony. Alors cette opération financière de haut vol, on peut l'analyser à la fois en dessus ou en dessous de la ceinture. Certains diront avec ironie qu'à 79 ans, Dylan entend préparer sa retraite et sa succession. 300 millions, ça permet de payer un bel EHPAD, diront les plus narquois. Mais ce pactole est une opération unique, rappelons-le. Dylan cède son copyright à Universal et ne touchera plus de droits ni de pourcentage par la suite, comme le confirme un article du New York Times cette semaine. Ses héritiers apprécieront. Le journal Le Monde et le Financial Times ce week-end nous rappellent également que Dylan n'a jamais hésité à se vendre. Il a fait des pubs pour le soda Pepsi, les voitures Chrysler, l'iPod d'Apple ou la marque de sous-vêtements Victoria's Secret. Les principes anti-consommation des années 60 avaient été jetés aux orties depuis bien longtemps. On peut faire une toute autre lecture de cette vente mirobolante et dire qu'après une carrière artistique unique dans l'histoire de la folk, du rock puis de la pop américaine, le prix Nobel de littérature a bien mérité de vendre sa musique. Il ne fut que rarement, contrairement à ce que l'on croit souvent, en tête du Billboard. Trop intello, trop poète, trop artiste, Dylan est l'un des plus grands artistes du XXe siècle, mais pas l'un des plus mainstream. Sa réputation a toujours été supérieure à ses ventes. Mais comme Lautréamont, Jean-Luc Godard ou Le Corbusier, ce qui compte n'est pas seulement le box-office, les ventes ou les réalisations, c'est l'art et l'innovation. Bob Dylan, icône des années 60, a contribué à inventer la folk tout en réussissant constamment à se renouveler. En témoigne la si décriée, si belle et désormais si célèbre Like a Rolling Stone. Ce jour-là, Dylan bascule dans le rock, en tout cas dans son rock à lui, abandonne la guitare acoustique et l'harmonica et vire électrique. Au-delà de sa référence explicite à Brian Jones, Mick Jagger et Keith Richards, Like a Rolling Stone est sans doute, avec son ubiquité et sa poésie, l'un des titres les plus importants de l'histoire du rock parce que, un peu comme dans Don Quichotte ou le film La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen, pour prendre des références très diverses, on y voit l'art raconter l'art. L'art qui se raconte en marchant. Like a Rolling Stone, c'est comme la pantomime d'Hamlet, c'est Pessoa et ses hétéronymes, c'est la chimie du verbe. On y entend Dylan, comme extérieur à son œuvre, se retourner sur son passé et décider soudain d'aller de l'avant, comme une pierre qui roule. Dans le premier volume de ses chroniques, une autobiographie poétique sublime qui mérite d'être lue ou relue, Bob Dylan racontait comment Lou Levy était venu signer avec lui son premier contrat. C'était en 1962. Il avait touché 100 dollars ce jour-là. 58 ans plus tard, le chèque est de 300 millions. À ce niveau, on appelle plus ça chez un banquier de l'inflation, on appelle ça du talent.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h19 sur France Culture en direct, l'actualité des industries culturelles et du numérique pour commencer cette émission. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec notre invité Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel, et nos chroniqueurs Manuel Paquette de L'Express. Et pour commencer sur le Covid, Zoé Sfez de France Culture.
Mardi prochain, le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision, les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées.
Cette espèce de stop and go, il est harassant pour le moral, épuisant. On avait à peine 3 semaines pour faire revenir les gens. On était en train de le réussir, ce soir, tout s'effondre.
Voilà, à l'instant, le Premier ministre Jean Castex qui annonçait donc que les conditions n'étaient pas réunies et remplies ce jeudi pour rouvrir les lieux culturels, ce qui a provoqué une incompréhension et une colère du secteur. En réponse, on écoutait également Frédéric Biessy, directeur du Théâtre de la Scala à Paris, au micro de France 2, qui confirmait Zoé Sfez que les artistes et le milieu du cinéma, eh bien, on peut apprécier, c'est un euphémisme, les annonces de Jean Castex.
Oui, alors en effet, bonsoir Frédéric. Ça a été vécu non seulement comme une déception, mais presque comme une douche froide, voire comme une manifestation de mépris. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans la bouche du directeur de la Scala et dans la bouche de quasiment tous les acteurs de la culture, en particulier ceux des lieux de spectacle. On a eu la prise de parole du directeur de Chaillot, celui de Benoît Lavigne, le directeur du théâtre du Lucernaire, qui ont expliqué qu'au moment des annonces d'Emmanuel Macron en novembre, notamment l'injonction à répéter, tous les spectacles étaient repartis sur le pied de guerre, que les répétitions avaient lieu et qu'effectivement c'est faire preuve d'un immense mépris que de ne même pas prévenir en amont des acteurs qui avaient tous prévu quasiment, et on était d'ailleurs nous journalistes invités à des premières dès le 14 décembre. Alors l'artiste Grand Corps Malade dès jeudi minuit a publié un nouveau titre, un titre musical intitulé Pas Essentiel, qui est clairement une attaque au gouvernement français. On a vu clairement des acteurs qui s'expriment très peu normalement de la culture prendre la parole. C'est le cas par exemple des conservateurs de musées qui sont généralement drapés dans leur devoir de réserve. Là, on a vu Oriane Beaufils, conservatrice des peintures au château de Fontainebleau, tweeter « Les musées sont donc plus dangereux que les galeries Lafayette ». On a eu ce matin dans le JDD un étrange appel signé par quelques 33 personnalités qui vont de Stéphane Berle à Charles Berling, en passant par Eric Arsena ou Albert II de Monaco, qui plaident pour un déconfinement des esprits, dans le but de relancer une vue culturelle adaptée qui nous éviterait d'être étouffés par l'instant présent. On a surtout une grosse révolte, c'est le terme utilisé par notamment Marc-Olivier Sebag, qui est le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, qui explique que ni dans les théâtres, ni dans les cinémas, aucun cluster n'a jamais été identifié pendant toute la période du déconfinement, et de rappeler que dans plusieurs pays, comme par exemple la Corée du Sud, les cinémas n'ont jamais fermé, même au moment où la crise était la plus violente. Roselyne Bachelot, face à toutes ces critiques prises à partie par à peu près tout le secteur de la culture, a rappelé qu'en fait, tous les pays européens, eux aussi confrontés à la violence d'une deuxième vague qu'on n'avait pas vu venir, sont logés à la même enseigne en matière de culture. Or, ce n'est pas tout à fait vrai.
Oui, en effet, la déclaration de la ministre de la Culture a fait réagir, mais elle n'est pas juste, Zoé Sfez. La culture est bien à l'arrêt en Allemagne et en Italie, mais c'est loin d'être le cas dans le reste des pays européens, comme le rappelle ce matin le Journal du Dimanche.
Oui, alors effectivement, la ministre Roselyne Bachelot a cité plusieurs pays quand elle a essayé de justifier cette décision. Elle a cité l'Italie, elle a cité l'Allemagne. Alors dans les deux cas, c'est vrai. Hein. D'abord l'Allemagne qui est face à une crise extrêmement violente, beaucoup plus violente d'ailleurs que pendant la vague de printemps, qui a donc, comme nous, vu quasiment tous les lieux culturels fermés entre fin octobre et début novembre selon les Länder, et qui ne les verra pas rouvrir assez longtemps, puisqu'a priori en Allemagne, à partir de demain, le confinement se durcit encore. Les restaurants ne pourront plus faire de vente à emporter, les crèches vont fermer. En Italie, le cas est peut-être encore plus cruel qu'en France, puisqu'en Italie, le pays est divisé en 3 types de zones selon la virulence du virus, les zones rouges où tout est bouclé, les zones oranges, où à peu près tout est bouclé à part les écoles, et les zones jaunes. Et dans les zones jaunes, figurez-vous que les restaurants sont ouverts la journée. Ils ne peuvent faire que de la livraison à emporter à partir de 18h. Et pour le coup, tous les théâtres et les cinémas sont restés fermés. C'est clairement une décision qui agace beaucoup le secteur de la culture. On a vu émerger il y a à peu près quelques jours une belle pétition signée par 80 directeurs de musées, les plus grands musées du pays, mais aussi plusieurs artistes, pour demander au gouvernement à minima une rouverture des musées dans les zones jaunes, ou les musées qui sont a priori moins dangereux que des restaurants. Le ministre de la Culture, Dario Franceschini, lui aussi se dit peiné. Il y a eu un grand scandale quand on a découvert que 8000 personnes ont été testées pour que, par exemple, les grandes émissions de télévisées continuent à avoir lieu, notamment X-Factor, qui est, disons, le Love Story italien, alors que dans certaines zones du pays, on manque de tests. En revanche, et c'est là que finalement Roselyne Bachelot n'est pas très honnête, en Autriche, en Irlande, les deux pays qu'elle a cités, les galeries et les cinémas ont rouvert respectivement le 1er et le 10 décembre, en même temps que les commerces non essentiels. Donc la culture, disons, a repris dans ces cas-là. Quant à l'Espagne, à l'Angleterre, au Portugal, on est dans des situations un peu paradoxales puisque ce sont des pays où la plupart du temps, les régions, les cantons, quand on parle de la Suisse, vont prendre des décisions différentes. Mais il faut forcer de constater que la plupart des lieux culturels ont pu continuer à fonctionner dans ces lieux. À Londres, les casinos, les cinémas, les théâtres doivent fermer à 11h et ne peuvent jouer qu'en respectant une jauge de 50%. Capacité de 50%, on peut pas aller au-delà de 2000 personnes en extérieur ou 1000 personnes à l'intérieur, mais en l'occurrence, tout se jouera et notamment toutes les comédies musicales de Noël qui vont clairement être vues à Noël. C'est le cas aussi pareil en Belgique où le gouvernement a autorisé la rouverture des musées à la surprise même des musées dès le 1er décembre, au Portugal et évidemment, on l'a dit, en Suisse et en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il semblerait qu'en France, lieu où la culture est extrêmement symbolique, il en aurait envisagé, par exemple, la réouverture des musées à cette période-là, en ce moment, entre le 15 décembre et le 33 janvier. Or, on a su que les cinémas et les théâtres auraient pu, avaient prévu, de potentiellement attaquer, devant le Conseil d'État, une décision qui aurait déconfiné la culture en deux temps pour, finalement, ne vexer personne. On semble avoir choisi la solution qui punit tout le monde.
Alors partout dans le monde, pour terminer Zoé Sfez, la prolongation de la crise du Covid met en valeur certaines faiblesses structurelles dans le champ de la culture. C'est vrai notamment aux États-Unis et puis plus de manière plus transversale dans la question du streaming musical.
Oui, effectivement, aux États-Unis, où les artistes, même si de manière assez différente, ont beaucoup joué dans l'élection de Joe Biden, ont demandé, en tout cas, sont dans un mouvement de demande de mise en place, alors non pas d'un ministre de la culture, puisque c'est une notion très française, mais de secrétaire d'État à la culture. Mais partout, surtout dans le monde, ces dernières semaines, les critiques se sont concentrées sur les plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit souvent dans Soft Power, si le streaming est un modèle qui aujourd'hui est clairement un modèle viable, qui est le modèle qui semble être en train d'être celui qui remplace l'industrie du disque qu'on a connu, toute la valeur dans l'industrie de la musique s'était déplacée vers le live. Or, cela fait un an désormais qu'à peu près partout dans le monde, le live n'est plus possible et disons que l'immense pauvreté, l'immense difficulté des artistes à vivre du streaming se voit, on va le dire, peut-être encore plus comme le nez au milieu de la figure. Trois études internationales qui sont parues ces dernières semaines semblent le confirmer. Sur plus d'1,5 million d'artistes dont la musique a été mise à disposition sur les plateformes en 2019, 1% a capté 90% des écoutes globales. Et parmi ce 1% d'élus, 10% ont concentré quasiment 100% des écoutes. Et cela veut dire aussi que 90% des artistes disponibles sur les plateformes reçoivent moins de 1 000 euros par an, même si leurs streams sont streamés jusqu'à 100 000 fois. Et on a vu ces dernières semaines des pétitions fleurir, par exemple au Royaume-Uni, une pétition intitulée « Justice at Spotify » lancée par l'Union des musiciens et des travailleurs de la musique, DJ producteurs, qui a été signée en 24 heures par plus de 6 000 professionnels. On a le même type de pétition qui a émergé aux États-Unis, ainsi qu'en France. Pourquoi ? On va dire que tout ça a culminé quand la semaine dernière, Spotify a proposé à tous ses utilisateurs de partager en story son écoute, le nombre de minutes qu'il a écouté de musique. Ça peut être très très impressionnant, y compris pour vous, pour moi, Frédéric Martel, de réaliser qu'on a écouté 2000 minutes, par exemple, de son artiste préféré. Évidemment, lesquels artistes pouvaient, ont demandé, ont répondu en disant qu'eux n'avaient pas vu la couleur de cet argent. En France, je le rappelle, le CNM, le directeur de ce Centre National de la Musique qui vient d'être nommé, a demandé la tenue d'une étude au cabinet Deloitte qui doit étudier l'impact de l'adoption d'une approche qu'on dit user-centric et qui va dévoiler ses conclusions fin décembre, début janvier. On en parlera bien sûr avec vous dans Soft Power puisque vous recevrez, on l'espère, le directeur de Spotify France.
Absolument, en janvier on recevra le patron de Spotify. Merci Zoé. Une réaction peut-être à Nicolas Terry, vous êtes le patron du Crédit Mutuel et mon invité ce soir. Et si je vous pose la question, c'est que le Crédit Mutuel est l'un, sinon le premier financeur des festivals de musique et d'ailleurs de tout un tas d'opérations musicales en France. We Love Green, les Energy Music Awards, les Victoires de la Musique Classique, Taratata, les émissions musicales de France Inter, les lives rêves de France Bleu, mais aussi de salles comme l'Olympia, les Zénith, la scène musicale et jusqu'au printemps de Bourges, Crédit Mutuel, qui porte même désormais votre nom, Nicolas Théry. Réaction sur cet état de, économique de la culture.
La première, c'est qu'on a décidé de soutenir la musique, de soutenir la culture, de maintenir les engagements, même si les spectacles n'avaient
pas.
Donc
s'il n'y a pas de festival, le Crédit Mutuel finance quand même la subvention.
Enfin, oui.
Donne quand même la...
Oui.
C'est pas une subvention, c'est l'aide.
Oui, parce que on croit à la musique, à la culture et surtout aux artistes. Et je trouve que le sujet que vous lancez là est vraiment fondamental. C'est qu'on voit qu'on est dans un moment d'isolement, de réduction des interactions sociales. Et aujourd'hui, on a besoin d'art. Ces moments familiaux où on regarde ensemble des vieux films, c'est bien, mais c'est des moments juste familiaux. Moi, je crois au fait d'aller au cinéma, je crois au fait d'aller au théâtre, de partager un moment collectif et de le vivre. Et c'est vrai, quand j'entends cette chronique, je sens un peu de tristesse. C'est que on a besoin d'art, et vraiment d'art, aujourd'hui, parce que ça fait partie de l'ouverture qu'on doit avoir sur le monde.
Et pour le banquier que vous êtes, l'opposition entre les biens essentiels et non essentiels vous questionne ?
Oui, beaucoup. Parce que je pense qu'il y a la vie, elle n'a pas besoin d'adjectifs qualificatifs. La vie, elle est ce qu'on en fait, elle ne se divise pas en un bout de commerce, un bout de consommateur, un bout de citoyen. Et je trouve que dans cette période où on est tous revenus à l'essentiel un peu brutalement, c'est un peu dommage de remettre des adjectifs qualificatifs comme essentiel et non essentiel. Qu'on soit attentif, oui, mais que nous soyons, j'allais dire, un consommateur admis dans un grand magasin, mais par contre un spectateur refusé dans une salle de spectacle, je trouve ça dommage.
Même s'il faut être responsable, en particulier avant les fêtes de fin d'année.
Absolument, mais nous devons être responsables. Mais je ne vois
c'est
pas.
C'est les formes d'inégalité qui ont été mal comprises ou ce qu'on appelle les deux poids deux mesures parfois.
Exactement. Qu'on nous dise à tous de réduire nos interactions sociales, on l'a compris. Qu'on soit moins dans l'interaction, oui. Mais je pense qu'on peut choisir d'aller au cinéma ou au théâtre plutôt que d'aller dans un grand magasin.
Comme le disait un artiste il y a quelques instants, les musées ne sont pas plus dangereux que les galeries Lafayette, finalement, pour prendre cette formule. Et puis le fait qu'aux États-Unis, Zoé Sfez l'évoquait, des centaines, des milliers d'artistes ont lancé cet appel à dire « President-elect Biden and Vice-president-elect Harris, nous représentons 5,1 millions d'artistes, de travailleurs. Notre économie représente 877 milliards de dollars. On aimerait un ministre de la culture, comme disent-ils 50 autres pays, et ils citent le Canada, la France, le Vietnam, etc. Ils citent aussi Roosevelt, qui a été un modèle pour beaucoup d'entre eux. Ils terminent leur appel en disant « We are with you, proud to stand as passionate American laborer. » On est avec vous, fiers d'être à vos côtés. C'est une bonne et juste revendication que de demander un ministre de la culture aux États-Unis.
Écoutez, s'ils pensent que c'est une solution, tant mieux. Je pense que c'est bien d'avoir un ministre de la Culture, d'avoir un ministère de la Culture. Mais je pense aussi que connaître le prix de tout, c'est connaître la valeur de rien. Et qu'on n'est pas obligé de dire que la culture n'est qu'une contribution de X% à la vie économique. Je pense que c'est un secteur important pour la vie.
Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser à un divorce hein, qui, comme toujours, fait suite à un mariage. Mais là, c'est la déraison qui l'a emporté autant dans le mariage que dans le divorce. Je veux parler de Donald Trump et de Fox News. Depuis 5 ans, Rupert Murdoch, hein, le patron de Fox News, et Donald Trump vivaient comme une lune de miel sans orage. Les intérêts financiers du magnat de la presse australo-américain épousant ceux du président télé-réalité Donald Trump. C'est sur Fox News que le candidat Trump avait annoncé déclarer sa candidature, sur Fox News aussi que le président avait multiplié pendant son mandat ses grandes annonces, sur Fox News encore où l'on mitraillait à l'époque Barack Obama, pas vraiment ou pas assez américain, ou Hillary Clinton qui devait finir en prison. Partenariat commercial et amitié politique, ou vice-versa d'ailleurs, allait donc de pair sous Donald Trump. La chaîne américaine ultra-conservatrice, lancée en 1996, avait pourtant commencé à prendre ses distances avec Trump, par exemple, il y a un an, dans cette séquence désormais fameuse, lorsque le journaliste star de Fox News, Neil Cavuto, expliquait à l'antenne qu'il ne travaillait pas, eh bien, pour Trump.
Fox isn't working for us anymore. Well, first of all, Mr. President, we don't work for you. I don't work for you. My job is to cover you, not fawn over you or rip you, just report on you, to call balls and strikes on you. My job, Mr. President, our job here is to keep the scores, not settle scores. Now, in my case, to report the economic numbers when they're good and when they're bad, when the markets are soaring and when they're tumbling, when trade talks look like they're coming together and when they look like they're falling apart. It is called being fair and balanced, Mr. President. Yet it is fair to say you're not a fan when that balance includes stuff you don't like to hear or facts you don't like to have questioned.
Je ne travaille pas pour vous, Donald Trump, disait ce journaliste déjà de Fox News. Une telle réplique restait cependant rare sur une chaîne relayant plus que de raison la propagande trumpienne. Coup de théâtre durant la première nuit de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, lorsqu'à 23h20, l'heure précise restera peut-être dans les annales, Fox News annonce, alors que ni CNN, ni ABC, ni CBS, ni même le New York Times, vous savez, ces gauchistes dangereux, ne prennent pas ce risque. Eh bien, cette chaîne Fox News annonce la victoire de Joe Biden en Arizona.
I'm sorry, the president is not going to be able to take over and win enough votes to eliminate that 7-point lead that the former vice president has.
Je suis désolé, mais le président ne sera pas capable de remporter suffisamment de votes pour combler les 7 points de retard qu'il a sur l'ancien vice-président Joe Biden, affirme donc Fox News. Annonce risquée, hein, mais qui sera finalement confirmée plusieurs jours après. Alors les réactions du camp Trump après ce lâchage en règle sont un Hiroshima anti-Fox News. Il faut dire que cette annonce casse la dynamique de Trump et remet Biden en selle malgré sa défaite à ce moment-là en Floride. Trump avait prévu d'annoncer sa victoire de manière prématurée. À ce moment-là, il ne peut plus le faire. La Maison-Blanche ne croit pas ce qu'elle voit sur son écran. Fox News s'est retourné contre elle. Tout le monde comprend que la défaite n'est plus impossible et la victoire moins incertaine. Dans la nuit et les jours qui suivent, les pro-Trump se fâchent. On les entend ici scander le slogan Fox sucks, News sucks, Fox News pue.
Actually chanting Fox News sucks. Fox News sucks. The reason why they're chanting that is because Fox News called Arizona for Biden yesterday and a lot of people are angry about that. We have not called Arizona a lot of other.
Voilà, fin de la lune de miel donc entre Fox et Trump et bientôt un tapis de bombes, c'est-à-dire de tweets de Trump contre sa chaîne fétiche. Il faut dire que chaque matin, le président restait en pyjama ou presque à écouter son émission fétiche Fox and Friends et à tweeter, ne s'occupant des affaires américaines qu'en fin de matinée selon une enquête hallucinée du New York Times. Il va se déchaîner à ce moment-là contre Fox, multipliant les tweets vengeurs à 89 millions de followers quand même, pour dénigrer la chaîne et tenter de lui faire perdre autant d'audience que possible. Mais celle-ci persiste, comme ici lors d'une conférence de presse où la porte-parole de la Maison-Blanche est interrompue par Fox parce qu'elle a dit des mensonges, je cite Fox, sur les fraudes électorales.
We want every legal vote to be counted. And we want every illegal vote.
Whoa. I just think we have to be very clear. She's charging. The other side is welcoming fraud.
Voilà, à l'instant, c'était la porte-parole de la Maison Blanche, Kaleg McEnany, coupée d'un coup par Fox News le 9 novembre 2020. Alors aujourd'hui, Donald Trump mène une politique de la terre brûlée. Ce mardi, il a insulté littéralement les journalistes de Fox News sur son compte Twitter qui ont rejoint dans son esprit le groupe des fake news médias. Regardez Fox News est pire que regarder la chaîne sans audience CNN, a-t-il tweeté mardi. Fox cite même des journalistes fake. Donald Trump cite même des journalistes fake du New York Times, a-t-il aussi tweeté le même jour. Donc Fox les cite, hein, ces journalistes du New York Times. Et Trump de citer également ces dernières semaines, nommément les journalistes de Fox qui ne lui plaisent pas. Ce week-end, Donald Trump continue cette politique de la terre brûlée en dénonçant violemment les gouverneurs, pourtant républicains, qui ont confirmé la victoire de Joe Biden dans leurs états, en Georgia, Géorgie et en Arizona par exemple. Et même la Cour suprême, pourtant désormais majoritairement conservatrice, a subi hier encore, samedi, les foudres réseau social trumpiennes parce qu'elle a voté contre lui. Le divorce entre Donald Trump et Fox News est donc bel et bien consommé. Le président sortant va-t-il lancer, comme on le dit, une chaîne concurrente, Trump TV ? C'est possible, mais il n'en a pas probablement vraiment les moyens financiers. L'Express ou le Washington Post, qui ont enquêté sur ce sujet et que je cite ici, pensent plutôt que Trump pourrait se vendre au prix fort comme chroniqueur exclusif d'une grande chaîne et pourquoi pas de Fox News. Sous une administration Biden, Fox devrait apparaître comme une chaîne non vendue par excellence en comparaison de CNN, ABC ou NBC qui ont effectivement toujours penché pour Biden. Alors pour faire de l'audience et rester indépendante du président Biden, pourquoi pas un nouveau chroniqueur à la mèche endiablée, peroxydé et démonétisé.
Seigneur Vador, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, maître. Où est Padmé ? Est-elle en sécurité ? Est-elle sauve ?
Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tuée.
Moi, c'est impossible. Elle était vivante. Je l'ai sentie.
Extrait du film La Revanche des Sith, le troisième épisode de la saga Star Wars, plus de 15 ans après l'acteur Hayden Christensen, qui incarnait Anakin Skywalker devenu Dark Vador, reviendra dans la série Obi-Wan Kenobi pour la plateforme Disney+. Ce jeudi, Emmanuel Paquette nous rejoint, journaliste à l'Express. Ce jeudi donc, Disney a en effet annoncé produire 10 nouvelles séries dérivées de la saga Star Wars, ainsi qu'un nouveau long métrage pour l'hiver 2023, et vient d'annoncer vouloir doper son service en ligne Disney+, au grand dam, Emmanuel Paquette, des exploitants de salles.
Oui, effectivement, c'est un peu le rififi dans le streaming, parce qu'effectivement, Disney a annoncé non seulement avoir 86 millions d'abonnés à son service Disney+, comme vous en parliez précédemment, mais également donc de relancer la machine avec 10 nouvelles séries Marvel, 10 nouvelles séries Star Wars et 15 séries et dessins animés Pixar et Disney qui arriveront directement sur Disney+. Dans le même temps, il y aura aussi une section un peu plus adulte qui va apparaître au mois de février 2021 qui s'appellera Star et dans laquelle on retrouvera en fait des contenus de FX Networks, d'ABC ou de la 20th Century Fox comme les films de Alien, Terminator, Die Hard, Deadpool. Tout ça intégré au sein de Disney+, mais, puisqu'il y a toujours un mais, avec une hausse de l'abonnement qui passera de 6,99 à 8,99 euros par mois en Europe. Il augmentera simplement d'un dollar aux États-Unis, mais avec beaucoup moins de contenu de la part de Star. On voit aussi que des longs métrages vont arriver directement sur la plateforme, comme Raya et le dernier dragon, qui est le prochain long métrage de Disney, qui devrait sortir en salle le 5 mars, mais sur Disney+ aussi, avec un coût supplémentaire de 30 dollars, comme ils l'ont fait précédemment avec le long métrage Mulan. Et c'est pas le seul studio aujourd'hui à mettre directement donc certains de ces films en ligne sur leur plateforme, puisque la Warner, avec son service HBO Max, a annoncé donc que 17 films devraient arriver en 2021. Donc parmi eux, Matrix 4, le prochain Wonder Woman 1984, Space Jam 2, et Godzilla contre Kong, qui arriveront directement sur la plateforme et qui seront en même temps diffusés dans les salles de cinéma aux États-Unis. Alors, ce genre de procédé a fortement énervé certains réalisateurs, dont Christopher Nolan, le réalisateur de Tenet, qui a été donc produit par la Warner, qui a dit dans la presse qu'il s'était couché la veille en pensant travailler pour le plus grand studio de cinéma au monde et qui s'est réveillé le lendemain pour travailler pour le pire service de streaming au monde. Donc on voit aujourd'hui que le réalisateur est vent debout contre son propre studio. Un autre réalisateur connu, Denis Villeneuve, qui travaillait sur Dune, qui fera partie des films diffusés directement sur HBO Max, a également déclaré qu'avec son équipe, il avait passé quasiment plus de 3 ans de sa vie pour en faire une expérience unique à vivre sur grand écran et que Warner vient peut-être de tuer la franchise Dune en l'adressant directement ce film sur sa plateforme de vidéo. Face à cela, on voit AMC, donc la plus grande salle de cinéma aux États-Unis, le plus grand exploitant avec 11 000 salles, qui vient de dire donc qu'au mois de janvier, il n'aurait plus d'argent pour survivre et qu'il a besoin de 750 millions de dollars pour continuer à ouvrir ses salles en 2021. Il n'a pas directement réagi aux annonces de Warner et de Disney. Ils ont simplement dit, enfin les responsables de AMC, que donc Warner était en train de sacrifier une grande part de sa profitabilité pour subventionner HBO Max avec tous les films qui seront mis dessus en même temps qu'une sortie en salle. Donc il est fort probable que 2021 soit un peu l'année de tous les dangers pour l'ensemble des salles de cinéma de la planète.
Avec peut-être une arrivée d'HBO Max en Europe en 2021, ce qui ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour OCS, qui jusqu'à présent, Orange en France, exploitait la production d'HBO. Autre sujet d'actualité, Emmanuel Paquette, une enquête pour abus de position dominante vise désormais Facebook aux États-Unis avec un risque de démantèlement, notamment de WhatsApp et d'Instagram. Mais est-ce que cette procédure, lancée notamment à la fois par 49 procureurs de différents États et par la Federal Trade Commission, est-ce que cette procédure, Emmanuel, a une chance d'aboutir ?
Alors en tout cas, ça va être compliqué. Compliqué pour deux raisons. Il y a une première raison qui est une raison technique. Comme l'a dit Facebook, aujourd'hui, Instagram, par exemple, est fortement connecté à Facebook, notamment pour mieux cibler les internautes avec des publicités qui sont liées à leur centre d'intérêt, par exemple. Il se trouve qu'aujourd'hui, Instagram réaliserait entre 15 et 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 70 milliards que déclare aujourd'hui Facebook. Donc, c'est quasiment 20% de son chiffre d'affaires. Donc, ça serait compliqué aujourd'hui de faire en sorte que Instagram soit démantelé au sein de Facebook. En revanche, WhatsApp, qui est l'autre messagerie extrêmement connue, qui avait été rachetée pour 19 milliards de dollars en 2014, lui n'est pas encore monétisé directement, sauf en Inde, par exemple, où aujourd'hui il est possible de payer via la messagerie instantanée. Je pense que vous pourrez en reparler avec votre invité un peu plus tard. Donc c'est un marché sur lequel Facebook mise énormément pour faire décoller WhatsApp en termes de messagerie qui permet de payer directement chez les commerçants. Mais on voit aussi que il y a un autre problème concernant Facebook, qui est que la FTC, par exemple, dont vous parliez précédemment, l'autorité de la concurrence, avait donné son accord lors du rachat de ces deux sociétés, donc Instagram et WhatsApp, et donc revient sur sa position, ce que Facebook estime être du révisionnisme historique, je cite la responsable des affaires juridiques, qui sont en train de mettre en place en fait tout un arsenal de ripostes pour ne pas se faire démanteler. C'est là le deuxième point, c'est-à-dire utiliser toutes les ficelles juridiques pour essayer d'éviter d'être démantelé. On sait très bien qu'aux États-Unis, cela peut prendre du temps. Il y a eu un précédent qui était celui de Microsoft. Ça a duré pendant 3 ans. Et au final, Microsoft n'a eu quasiment aucune amende ni aucun démantèlement possible de la société. Donc ça a pris du temps, des moyens. Et à la fin, Microsoft est resté Microsoft.
Nicolas Terrib, juste avant que Emmanuel Paquette termine les actualités de la semaine, peut-être une réaction en tant que président du Crédit Mutuel, mais aussi en tant qu'observateur de la vie financière internationale sur ces questions de position d'abus dominante des GAFA.
Ah, je suis très très satisfait qu'on se réveille enfin. Le droit de la concurrence est un droit qui est libérateur, qui est émancipateur, qui doit permettre de vivre une certaine forme de liberté publique. Et je trouve que c'est plutôt un très bon signal. Si je peux me permettre, on dit souvent que les données sont le pétrole du 21e siècle. Les États-Unis, au début du 20e siècle, ont eu le problème avec la Standard Oil de Rockefeller et ils l'ont démantelé.
Et ils ont régulé. Ouais.
Et ils ont régulé.
Ils l'ont fait aussi sur la question du cinéma, notamment en coupant les studios des salles. C'est la Paramount juste après-guerre. C'était la Cour suprême, je crois. Ils l'ont fait encore sur les productions télé par rapport aux chaînes et au network. Donc quand il faut, ils savent.
Ils savent. Et là, le problème était celui du diagnostic, c'est qu'on n'a pas vu qu'un réseau était une puissance totalitaire. Et qu'un réseau...
Totalitaire ou en tout cas total, disons.
Total à vocation potentiellement totalitaire compte tenu des données. Et donc peut-être que le mot est fort, je l'assume là-dessus, mais je trouve extrêmement satisfaisant qu'on se repose la question de la vocation totale ou totalitaire de ces réseaux.
Mais ça veut dire aussi que, et ça c'est un esprit rooseveltien qui sans doute vous plaira, on y reviendra, mais d'une gauche américaine qui défend l'économie de marché, oui à l'économie de marché, mais une économie régulée où les positions d'abus dominantes sont contrôlées.
Mais je suis convaincu que le monopole n'est pas une valeur de gauche, ni américaine, ni ailleurs.
Ni même une valeur économique ou même libérale, finalement.
Absolument. Et je pense que combiner le droit de la concurrence avec un diagnostic social et une ambition de liberté publique, c'est une bonne nouvelle.
Dernière question, Emmanuel Paquette, le spécialiste de la cybersécurité, FireEye, grand géant qui permet de protéger les grandes entreprises américaines, y compris les services secrets américains, eh bien, il a été piraté lui-même, ainsi que en Europe l'Agence européenne du médicament. Alors deux attaques pour deux objectifs différents. La police attaquée par les gangsters, hein, le médecin qui est malade. Si même les spécialistes de la cybersécurité sont piratés, cela augure de quelques problèmes à l'avenir, Emmanuel.
Oui, effectivement. Alors comme vous le disiez, FireEye est très connu, notamment pour un de ses services. Alors on appelle ça du pen test ou des tests de pénétration, c'est-à-dire qu'en gros des sociétés demandent à FireEye de les attaquer pour découvrir les failles de sécurité qui peuvent exister au sein de leur système d'information. Et ce qu'ont fait les assaillants face à FireEye, c'est qu'ils ont justement volé cet arsenal d'attaques pour probablement le réutiliser à leur compte dans les mois ou années qui viennent. Alors FireEye a pas donné les éléments qui avaient pu être volés par ces assaillants. Ils ont simplement dit que forcément, vu la sophistication de l'attaque, c'était un État qui était derrière. Il est fort probable, c'est en tout cas ce que disent certaines sources américaines, que ce soit donc des groupes russes, proches des services de renseignement russes, qui soient derrière cette attaque. Et donc, on voit aujourd'hui qu'une enquête a été ouverte par le FBI pour savoir ce qu'il en était. Et effectivement, cette attaque survient la même semaine pendant laquelle l'Agence européenne de médicaments a, elle aussi, a subi une intrusion pour tentative de vol de documents, hein, des documents qui concernaient directement Pfizer et BioNTech, donc qui sont aujourd'hui les deux sociétés qui doivent proposer un vaccin donc pour l'Europe d'ici le 29 décembre. L'Agence du médicament doit rendre son avis d'ici la fin de l'année sur la commercialisation de ces vaccins. Donc dans le premier cas, on vole des données, donc des armes informatiques. Dans l'autre, on vole des informations sensibles sur des vaccins. Ce qui est certain, c'est que même si on est dans l'univers du virtuel, ben ces attaques, elles, risquent d'avoir des effets bien réels.
Nicolas Terry, merci. Emmanuel Paquet. Nicolas Terry, FireEye, c'est peu connu, mais c'est extrêmement significatif. Si une société comme ça, spécialisée dans la protection, hein, la cybersécurité et les dangers des autres, arrive à être piratée, personne n'est à l'abri.
Ah, c'est clair, c'est le deuxième carton jaune de la soirée. C'est qu'il faut rappeler que l'informatique, l'interconnexion, ça a l'apparence de la simplicité et ça a la réalité d'une insécurité, notamment de fonctionnement. Et je pense qu'il faut revenir à des données importantes d'architecture informatique, de sécurisation, de réduction des interconnexions. On en parlera peut-être pour la banque, mais c'est un vrai aussi rappel au règlement de ce point de vue-là.
C'est aussi une question de géopolitique, parce que là, il ne s'agit pas d'un groupe terroriste ou d'un groupe de hackers, comment dire, un peu radical. Il s'agit éventuellement, ce que laissent entendre en tout cas les autorités, pour une part américaine, et en tout cas la presse américaine comme le New York Times qui en a fait un éditorial, c'est la Russie.
Bien sûr, et c'est le lien avec votre évocation de tout à l'heure de François Hesbourg, le temps des prédateurs. Le temps des prédateurs est certes celui des États, mais il est aussi celui de la technologie, celui de la cybersécurité. Et je pense qu'on a une vraie réflexion à avoir sur ce temps des prédateurs autour de nous.
À suivre justement dans Soft Power, 19h30, François Hesbourg, le temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie, pardon, et nous. 19h45, le superfail de Guillaume Erner. Et tout de suite, juste avant tout ça, et juste avant de retrouver Nicolas Terry pour parler du crédit mutuel et des banques et des assurances, juste avant donc, pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, voici le box-office, notre séquence hebdomadaire réalisée avec l'Institut d'études GFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo, et CBO Box Office pour le cinéma, ce qu'il en reste, sans oublier le billboard de la semaine et le top 50 France de Spotify. Non-fiction, pour commencer, il parle en vagabond, mais il est devenu millionnaire. Sylvain Tesson continue sa folle ascension, et pas seulement d'ailleurs au sommet des cathédrales, mais au top du box-office. Son recueil de textes, L'énergie vagabonde, est classé 4e dans la liste GFK des best-sellers avec, nous dit l'éditeur, près de 10 000 copies vendues seulement cette semaine. Selon l'éditeur, donc, il dépasserait déjà les 50 000 exemplaires, chiffre faramineux pour un livre de 1400 pages à 32 euros. Les 60 000 copies devraient être dépassées à la fin du mois. Partir, c'est vivre, écrit Sylvain Tesson. Un jour, on se lève de sa table, on ferme les livres, on ouvre la porte et l'on se met en marche sur le premier chemin. Sylvain Tesson, toujours, prend la tangente. Il mise sur l'échappée. Depuis plus de 30 ans, Tesson est sur les routes. Il s'est essayé à beaucoup de formes de déplacement. Il vit dans un monde de map-monde. En marche, je vis, je respire, je cherche l'aventure, écrit-il. Sur la route, sur le quai des correspondances, il tient aussi des carnets. Fait des croquis, non pas seulement pour passer le temps, mais pour se souvenir. Ces carnets, ces croquis, à tire-d'aile, sont publiés ici ou là, avec leurs croquis précisément, dans ce livre, L'énergie vagabonde. Alors pourquoi Sylvain Tesson connaît-il autant le succès cette année, quatrième cette semaine dans les ventes livres JFK, je l'ai dit. Certaines semaines, cette année, il y avait même 4 best-sellers à son nom dans les 10 meilleures ventes en France. 4 sur 10, abracadabrantesque. L'une des raisons, je crois, de ce succès est à chercher du côté du confinement. Alors que nous sommes enfermés, et un peu contre notre volonté, il nous offre par l'écriture en modèle sa vie de mouvement. On voyage à travers lui. Confiné dans nos déplacements, on est dans un monde de limites. Lui nous raconte un monde sans limites. Une autre raison, peut-être, c'est la mélancolie. Il y a une mélancolie, une larme, une sorte de soda des Sibériens, si l'on peut dire, chez Sylvain Tesson, qui toujours s'interroge sur les raisons du voyage. Il sait la solitude de l'aventure, mais aussi celle du retour, car il revient toujours. Alors il se retrouve seul aussi, en rase campagne, le vide, la nuit, la solitude, l'absence. Les amis, écrit-il, ils sont restés derrière soi. Ils ont peuplé leur propre maison avec leur propre famille. Ah, leurs soirées doivent être gaies avec leurs enfants autour d'une table où fume la soupe. Sylvain Tesson confirme que lorsqu'on part, on part d'abord avec soi-même. C'est une quête d'identité. En somme, écrit-il, il faut être de quelque part. Il faut bien connaître ses ports d'attache. Sans attache, sans être quelque part, on ne va nulle part. En lisant l'avant-propos de ce livre dense, parfois stérile comme une Sibérie, parfois aride comme la steppe d'Asie centrale, et en le parcourant, j'ai repensé au poème de Du Bellay, l'un des plus beaux de notre langue. « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Est-ce que ça sert finalement à quelque chose de parcourir le monde, juste pour le parcourir, si ce qu'on cherchait est là, à portée de main, une bonne soupe au coin du feu? Sylvain Tesson conclut « L'énergie vagabonde est le nom de l'expulsion hors d'une écurie chérie, que vous brûlez de revoir tout en consacrant vos forces à la quitter. » En fiction maintenant, les premiers chiffres du prix Goncourt, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, sont tombés 83 000 copies en une semaine. Un très beau score qui va sûrement se confirmer jusqu'à la fin décembre. En effet, cette année, ça n'arrive pas en principe. Le Goncourt correspond exactement aux fêtes de fin d'année. C'est donc une parfaite idée de cadeau. À Noël, attendez-vous à des anomalies sous le sapin. Jeux vidéo et musique pour finir, les deux sont liés. Car le 10 décembre, c'était le lancement international de Cyberpunk 2077. Développé par CD Projekt, société polonaise de jeux vidéo, l'autre géant européen du secteur derrière le français Ubisoft. Cyberpunk 2077, donc, on plonge dans Night City, ville californienne débridée, vision du futur selon Blade Runner, hypercapitaliste, transhumaniste, ambiance à la fois cruelle et mélancolique. Un univers fascinant qui a demandé des années de préparation de ce travail, puisque son développement remonte à 2012. C'était il y a si longtemps, 2012, l'âge de Pierre et de Nicolas Sarkozy. Et donc, l'attente autour de Cyberpunk 2077 était immense. D'après CD Projekt, il y aurait eu 8 millions de précommandes, chiffre inédit, qui fait de Cyberpunk le meilleur démarrage de l'histoire des jeux PC. Par contre, les versions PS4 et Xbox One ont été bâclées. Les joueurs se désespèrent et critiquent des bugs en tout genre. Quant à la version PS5, elle est annoncée pour dans bien longtemps. Reste que Cyberpunk 2077 a tout du phénomène de société. Avec lui, c'est tout un genre qui arrive à maturité. Le jeu vidéo qui s'affirme comme une œuvre esthétique, visuelle ou cinématographique. Et même musicale. La chanteuse Grimes, par ailleurs compagne d'Elon Musk, le rappeur A$AP Rocky ou la DJ Nina Kravitz, tous ont leur avatar dans Cyberpunk 2077. Et on écrit les musiques qui composent l'univers. Alors, on termine ce box-office en entrant en musique dans Night City avec cette chanson de Grimes, Delicate Weapon, pour Cyberpunk 2077, ou quand le box-office jeu vidéo rejoint le box-office musique. France Culture, pratiquement 19h en direct dans Soft Power. Mon invité ce soir est Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel, pour une émission consacrée à l'après-Covid, la grande transformation des banques et de l'assurance. Rebonsoir Nicolas Terry.
Bonsoir Frédéric Martel.
Alors je commence par votre parcours, brièvement résumé en 7 dates. Vous êtes un ch'ti, hein, comme on dit, né à Lille en 1965. Vous aimez ch'ti, ça vous va?
Ah, oh, très bien, ça me plaît beaucoup. Hein.
Pour nous, vous savez, venant du sud de la France, ce sont les ennemis. Hein.
Mais non, vous venez visiter avec plaisir, il paraît.
Absolument, oui, quand il pleut, vous connaissez voilà. Le film, il pleut à torrent.
Vous savez, on pleure deux fois dans le Nord, quand on doit y aller et quand on doit repartir.
1989, vous sortez de l'ENA, vous êtes major, d'ailleurs major de l'ENA, promotion, ça ne s'invente pas, liberté, égalité, fraternité, vous sortez inspecteur des finances. 1997, vous êtes conseiller du ministre de l'économie et des finances Dominique Strauss-Kahn, puis directeur de cabinet de la ministre du budget, alors Florence Parly, dans le gouvernement de Lionel Jospin. 2000, vous êtes le conseiller économique de la CFDT. 2002, vous êtes directeur de cabinet de Pascal Lamy, commissaire européen pour le commerce extérieur. 2009, vous entrez au Crédit Mutuel, dont vous êtes depuis 2016 à la fois le président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, pour donner les titres exacts, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Fédération du Crédit Mutuel Centre-Est Europe. Vous présidez également le CIC Est et le CIC Nord-Ouest et vous êtes le président du Conseil de Surveillance du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel. Voilà pour toutes ces casquettes, on dira plus globalement patron du Crédit Mutuel. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la banque? Une question personnelle. L'argent, bien sûr.
Ouais, l'argent est important, mais pas vraiment l'argent. Non, il y a deux choses qui m'ont attiré. D'abord, les circonstances, parce qu'on croit toujours qu'on fait des carrières. En fait, c'est une question de circonstances.
C'est les carrières qui vous font, un petit peu.
Oui, j'ai été mis au placard à Bruxelles. Il fallait trouver un autre endroit où aller travailler. On avait envie, sur le plan familial, d'aller en province. Il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises qui sont installées en province et qui pouvaient apprendre à quelqu'un comme moi.
Où est le Crédit Mutuel, en l'occurrence?
À Strasbourg, là. Et donc, le choix était un choix familial. Le deuxième choix personnel, c'était le choix d'une banque mutualiste. C'est que je suis persuadé que le mutualisme est une forme intéressante. Ma vocation de départ, c'est fonctionnaire, je ne la renie pas, c'est l'intérêt général et j'ai trouvé dans le mutualisme une forme d'utilité collective qui me plaît beaucoup.
C'est comment rester à gauche et comment rester un patron sympathique alors qu'on est patron d'une banque?
C'est comment essayer de mettre en œuvre ses convictions, les confronter avec le réel, et quand on les confronte avec le réel, les caricatures se vérifient moyennement.
Vous avez la religion de la finance, comme on dit chez Zola par exemple?
La finance, je pense que c'est juste un outil. Et on parlait tout à l'heure de la technologie.
C'est ni bon ni mauvais en soi, ça dépend de ce qu'on en fait.
Exactement. Et comment on la contrôle, et comment on l'oriente, et ce qu'on veut en faire collectivement. Et je suis persuadé qu'il y a un vrai champ pour ça.
Je citais Zola, c'est d'ailleurs L'Argent, un roman fameux de Zola. Il y a une phrase que j'aime chez Zola où il dit « Ce mystère des opérations financières où peu de cervelle française pénètre ». Vous avez réussi à comprendre comment ça marchait?
Ah, je ne sais pas, mais je constate quand même que la France a une industrie financière remarquable, des grandes entreprises avec des gens qui les développent. Mais au fond, c'est toujours la question du sens et toujours la question du diagnostic. On parlait tout à l'heure de la technologie, on parlait des grandes plateformes. Et quelque part, Sylvain Tesson, vous avez trouvé que je fais un parallèle un peu rapide, mais Sylvain Tesson, il nous ramène à ça. C'est où est l'essentiel de l'argent? Où est l'essentiel du voyage? Où est l'essentiel de la vie qu'on veut?
Lui monte au sommet des cathédrales et parfois il en tombe.
D'ailleurs. Et parfois il en tombe, mais il survit.
Et il continue, il se relève et il repart. Alors, venons-en à la banque, après avoir parlé de vous, Nicolas Terry. La banque préférée des Français, on dit toujours ça à propos du Crédit Mutuel, et c'est vrai, j'ai regardé les données, on a comparé. Vous arrivez en tête des banques préférées des Français, devant la Caisse d'Épargne ou le Crédit Agricole, sans même parler de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais, qui a tellement peur qu'il a changé de nom, par peur qu'on se souvienne de lui. Ce succès, vous le devez en partie à votre slogan, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pourtant, vous n'êtes ni la banque la moins chère, ni la plus innovante, on y reviendra. Si je voulais être critique, pour commencer, je dirais, ce n'est pas votre banque qui est la meilleure, c'est votre stratégie de com qui est meilleure.
Non, ce qui est meilleur, c'est l'engagement de 72 000 salariés et de 20 000 élus mutualistes. Et ça, je le crois sincèrement. C'est pourquoi le slogan a bien marché. Simplement parce que toute l'entreprise, tous les salariés y ont cru, l'ont mis en œuvre et l'ont prouvé. Et je pense qu'il n'y a pas de com qui tienne sans une réalité et sans une preuve. Pas d'amour que des preuves d'amour.
Jean Cocteau.
Voilà. Et je pense que fondamentalement, ce que vit le Crédit Mutuel, ce que vivent ses salariés et ses élus mutualistes, c'est juste ça.
C'est un peu comme la Maïf quand assureur militant et les gens adorent, même si c'est pas forcément la meilleure société d'assurance. Mais le slogan est beau.
non pas seulement le slogan, c'est que dans nos métiers qui sont des métiers de l'immatériel, la question, c'est le rapport qualité-prix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les revues consuméristes, on dit toujours le prix, on ne dit jamais la garantie. On dit toujours le prix, on ne dit jamais le service qu'il y a derrière. Et ce qui compte, et je pense que c'est là-dessus que le Crédit Mutuel, comme toutes les autres banques et comme tous les autres assureurs, est jugé, c'est ce qu'il y a derrière.
Alors, banque préférée des Français, et en même temps, les Français n'aiment pas beaucoup leur banque. Quand on les interroge par ailleurs, dans tout un tas de sondages, ils la voient un peu, ils voient leur banquier comme un Thénardier au fond. Alors, j'aimerais partager avec vous un souvenir, on a presque le même âge, quand vous étiez petit, vous et moi, quand on était petit, on se souvient sans doute de ces agents, c'était quasiment des agents publics qui venaient dans les écoles nous vanter les mérites de l'épargne. À l'époque, c'était l'écureuil, hein, la caisse d'épargne, à l'époque où l'écureuil n'avait pas encore été totalement libéralisé. Les banques étaient pratiquement gratuites et elles rémunéraient bien notre argent. Aujourd'hui, elles sont chères et elles ne rémunèrent plus rien. Qu'est-ce qui a changé dans le rapport des Français à leurs banques?
Je pense que les banques ont raconté une histoire qui était fausse. C'est que la banque, c'était gratuit parce qu'en fait, elle se rémunérait sur notre épargne, notamment quand les taux d'intérêt étaient élevés.
Sans qu'on comprenne.
Et donc, il y a eu une grande ambiguïté qui s'est créée. Et la réalité aujourd'hui, c'est que le réel est de retour, que la Banque Centrale Européenne a des taux d'intérêt négatifs, que demain, ça vaut moins cher qu'aujourd'hui. Quand on voit sur le plan social, c'est phénoménal de se dire « demain vaut moins cher qu'aujourd'hui ». C'est ça le signal de la Banque Centrale. Et là, tout d'un coup, les banquiers n'ont pas pu s'enrichir avec notre épargne. Les services ont une valeur, ont un coût.
Et donc, ils les font payer.
Et là, je reviens au rapport qualité-prix.
Et au mutualisme.
En tout cas, à l'exigence morale du métier, qui est de dire finalement, je veux vous accompagner, vous le client, sur la totalité du cycle de vie. Un cycle de vie, c'est un cycle d'épargne, d'investissement, de préparation de la retraite, de prise de risque, d'initiative. Et au fond, le métier du banquier, c'est celui-là. Et là, la sélection est difficile, parce que c'est plus une sélection par le prix, c'est une sélection par la qualité du conseil.
Revenons au Crédit Mutuel, cinquième groupe bancaire français en taille de bilan, troisième banque de détail française en nombre d'agences, banque coopérative et mutualiste. Un mot sur ce mutualisme dont on a parlé déjà plusieurs fois. Vous êtes avec la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole, une banque mutualiste. C'est quoi ? C'est l'économie sociale et solidaire, comme on dit parfois ?
Le mutualisme, c'est l'idée de la coopération. C'est l'idée fondamentalement. Le créateur du Crédit Mutuel, c'était un Allemand de Sarre qui s'appelait Raiffeisen. Il a eu deux idées. Alors une qui est bien connue, qui est le microcrédit. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, il y a de la pauvreté rurale, les paysans riches vont payer aux paysans pauvres. Bon, ça, d'autres que lui l'ont eu. La deuxième idée pour moi fondamentale, c'est qu'il a décidé que chacun d'entre eux aurait le même droit de vote.
C'est-à-dire celui qui investit et celui qui récupère.
Exactement. Et donc là, il n'y a plus de paternalisme.
Et le maître... L'emprunteur et le prêteur sont tous les deux à égalité de vote dans cette banque.
Exactement. Et Proudhon, par exemple, avec un socialisme plus libertaire, avec son idée du juste prix.
Non autoritaire.
Mais au fond, cette recherche-là, elle est juste. Qui est que chacun a le même droit en tant qu'individu, même si son besoin à un moment donné n'est pas le même.
Proudhon, qui, je le cite, théorie de la propriété 1871, pour assurer la perpétuité de l'association, nous n'avons plus qu'à l'organiser en créant collectivement un certain nombre d'institutions de mutualité, assurance mutuelle, crédit mutuel. Il cite quasiment le nom de votre banque qui sera inventée par la suite.
Mais c'est un grand créateur et je pense qu'aujourd'hui, on revient à ces réalités collectives. Et si vous me permettez, il y a une autre signification du mot mutualiste qui est dans la biologie. Je ne suis pas spécialiste de la biologie, mais cette idée de la coopération des espèces, la pollinisation, par exemple, est un phénomène que les biologistes appellent mutualiste. C'est-à-dire que vous mettez en commun deux espèces qui n'ont rien à voir, qui est une plante et une abeille, et vous créez un bien collectif. Et je suis persuadé qu'on est toujours gagnant à rechercher les formes de ce genre-là.
C'est pas la charité, au fond. C'est pas cette idée chrétienne un peu condescendante et paternaliste de la charité, mais une idée plutôt ancrée dans l'ouvrier, dans la classe ouvrière, dans l'histoire du socialisme, d'ailleurs, pour une part, du socialisme libertaire, ou alors du républicanisme, pour citer Léon Bourgeois, autre grand père, finalement, du solidarisme.
Oui, ben c'est l'idée qu'au fond, on peut construire, quelle que soit sa situation individuelle, un intérêt collectif. Et je crois beaucoup qu'une des choses qui va apparaître dans la période post-Covid, c'est l'idée de communauté. Et je suis persuadé que cette idée de retrouver le sens de la communauté, on parlait de la communauté culturelle tout à l'heure, mais est une idée fondamentale de la période qui arrive. On est sorti du néolibéralisme et de l'intérêt individuel et de la juxtaposition des intérêts individuels qui feraient société. Et je suis convaincu que le mutualisme, qui était une idée un peu vieillotte, vous avez cité plein d'auteurs du 19e, est aujourd'hui une idée qui va redevenir d'actualité.
Ça veut dire au fond que... il est possible d'imaginer un mutualisme en 2020, c'est-à-dire une ancienne idée qui redevient moderne ?
Oui, je suis convaincu de ça. Notamment parce que la contradiction entre la logique de rémunération du capital et la logique du client et du consommateur va apparaître plus fortement. Vous ne pouvez pas décemment demander 10% de retour sur fonds propres à tout instant votre épargne quand le prix du capital, on en a parlé tout à l'heure, est négatif avec la Banque centrale. Et donc le mutualisme, ça va être un moyen d'arbitrer ça en remettant ensemble le capital et le client, puisque la logique mutualiste, c'est que la banque appartient à ses clients.
Alors venons-en maintenant à tout ce qui concerne le Covid et ses conséquences. Ce jeudi, vous avez rendu public lors d'une conférence de presse votre plan stratégique jusqu'en 2023, plan qui a été revu pour tenir compte du Covid. Quelles sont les conséquences pour le crédit mutuel? Quand est-ce que, par exemple, vous estimez que vous allez revenir à l'équilibre qui existait avant le Covid?
Le principe, c'est qu'on a dit qu'on retrouverait d'ici 2023 les résultats de 2019. Au fond, une crise qui va nous prendre 2 ans à peu près.
Presque 3 en comptant l'année en cours. Ouais.
Presque 3. Ça peut aller un peu plus vite, un peu plus lentement. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est pas la peine de réduire le réel, le mettre en plan ou en équation. On a voulu remobiliser toute l'entreprise et surtout dire, on se met vraiment en marche pour servir les clients et la crise sera effacée d'ici 2 à 3 ans.
Vous avez et vous observez le comportement de vos clients en général et durant le Covid en particulier. Qu'est-ce que vous observez comme grande tendance qui se passe depuis cette année, depuis le premier confinement?
La plus grande surprise, c'est l'intensité de contact. C'est totalement paradoxal, alors qu'on est confiné, que tout le monde nous dit qu'on bascule dans le numérique. Ce qui est vrai aussi, mais ce qui est très frappant, c'est que le nombre de rendez-vous physiques dans nos caisses et nos agences, le nombre d'appels téléphoniques, et le nombre de contacts numériques, le rendez-vous vidéo, on l'a lancé en septembre, il y a 10 000 rendez-vous aujourd'hui par mois. Le nombre de contacts sur nos serveurs de banque à distance, qui sont d'ailleurs classés numéro 1 sur le plan de la qualité, c'est plus d'1,1 milliard contacts.
Et 40 millions d'appels téléphoniques.
Oui, et donc ce qui moi me frappe énormément, c'est qu'on n'a pas eu le grand basculement entre le physique et le numérique. On a eu une augmentation de la demande de banque. Ce qui est logique dans
des
une
deux,
période.
Des deux côtés à la fois. Plus de contacts physiques et plus de contacts numériques en même temps.
Et à distance. Ce qui est logique, puisque l'inquiétude est là. Il y a des vraies questions pour beaucoup de secteurs, pour beaucoup de nos concitoyens. Et donc, ils contactent leurs banquiers.
Au niveau des consommateurs, il y a une transition accélérée que vous voyez qui concerne quel type d'évolution?
Tout le monde fait tout à la fois. Et je pense que la spécialisation des canaux, le « je vais être la meilleure banque numérique » ou avant c'était « je veux être la meilleure banque téléphonique », moi je n'y crois pas. Je pense que la banque universelle est une réalité, c'est que nous voulons tous pouvoir contacter notre banquier par téléphone, pouvoir le voir et effectivement pouvoir le contacter de manière numérique. Et donc cette ambition de... Les consommateurs, à mon avis, sont plus globaux qu'avant. Je ne crois pas du tout aux consommateurs millefeuille, celui qui voudrait optimiser chaque centime de chaque relation, mais je crois qu'il y a une vraie demande d'accompagnement global.
On observe aussi une transition accélérée vers le e-commerce, beaucoup d'achats en ligne, l'argent liquide qui disparaît en partie au profit du sans-contact, pour des questions d'hygiène mais aussi de facilité. Désormais 50 euros ont été autorisés de paiement sans contact avec un plafond je crois de 150 euros sans devoir utiliser son code. Il est par exemple de 150 euros au Japon. Est-ce que vous voyez cette tendance perdurer par exemple?
Sur le développement du sans-contact et des outils, oui. Clairement, oui. Après, la seule limite, 50 ou 150 euros, c'est celle de la fraude.
Et de la sécurité, oui. Mais l'idée qu'au fond, le sans-contact et l'argent liquide va peu à peu être moins influent, vous paraît convaincant?
Oui, on assiste à une diminution des usages, pas forcément à une annulation des usages. Et ce sera très intéressant de voir pour quelles transactions et de quelle manière les consommateurs vont continuer à l'utiliser. Moi, je pense plutôt à une décroissance progressive qu'à une disparition complète.
On voit aussi moins de chèques qui sont faits. Dans certains pays, le chèque a disparu. Par exemple, en Allemagne, en Angleterre, il est devenu très très bas. On est aujourd'hui en France l'un des pays qui émet le plus de chèques, quasiment, je crois. 70% des chèques échangés en Europe sont français, dit-on. Il faut vérifier cette statistique. Est-ce que le chèque est condamné à moyen terme?
Je pense qu'il n'a plus vraiment d'usage ou d'utilité. Alors les Allemands, c'est intéressant parce que ce sont d'énormes utilisateurs de liquide. Donc eux ont un tropisme liquide, les Français avaient un tropisme chèque. Et je pense qu'on va retrouver un tropisme européen du côté de la technologie et du paiement dématérialisé.
Mais pour ça, il faut que les virements soient facilités. Or, ils restent souvent difficiles. Il faut par exemple 70 heures pour qu'un virement soit possible avec un nouveau bénéficiaire dans des banques concurrentes à la vôtre que je ne citerai pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des virements soient accélérés tout en préservant les questions de sécurité avec un IBAN, un IBAN, dont les gens ont parfois peur que l'argent soit envoyé ailleurs, alors que je crois qu'il y a un code, une clé à la fin de l'IBAN qui permet de faire en sorte que si vous vous trompez dans un chiffre, ça c'est refusé parce que le chiffre est repéré comme n'étant pas le bon.
Absolument. Mais là, on revient à nos questions d'architecture informatique qui, pour moi, sont fondamentales. C'est que votre virement, il ira d'autant plus vite que vos serveurs sont exclusivement ceux de votre banque, qui sont installés en France, que la sécurité et l'organisation est faite pour être très efficace et très simple. Et je pense qu'on va revenir à autre chose que l'argent magique ou la banque magique, c'est-à-dire que nous sommes au fond une société d'information, un système informatique, et la qualité du service au consommateur est aussi de la qualité de la technologie qu'on mobilise pour lui.
Réduction du nombre de distributeurs aussi, on observe ce mouvement qui commence.
Alors oui, il y a une
réduction. Les distributeurs de billets, je parle là.
Oui, il y a une réduction progressive du nombre de distributeurs parce qu'ils sont de moins en moins utilisés. Et nous, pour ce qui nous concerne le Crédit Mutuel, on veut maintenir une présence territoriale large. On n'a pas de plan de fermeture d'agence, on n'a pas de plan.
Avec le risque de la désertification bancaire qui existe dans certains évidemment villages. Est-ce qu'il n'y a pas une idée, par exemple, qu'on pourrait mutualiser des agences en zone rurale, par exemple entre des banques qui se ressemblent, la Poste, la Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole, vous-même, c'est une idée sur laquelle vous pourriez travailler, par exemple?
Alors, d'abord, on est en concurrence, donc chaque banque prend sa décision. Nous, la décision qu'on a prise, c'est de ne pas avoir de plan de fermeture massif. Il y a effectivement des simplifications qu'on fait, notamment dans les zones urbaines, beaucoup plus que dans les zones rurales. Et puis, si d'autres banques ferment, on sera ravis d'accueillir les clients qui voudraient garder un lien de proximité.
Un bancobus itinérant, comme il y a des bibliobus où il y avait pour les livres, c'est possible pour que les banques puissent être...
Mais il y en a. Il y en a déjà dans les zones rurales, justement, dans les endroits où on maintient un bureau ouvert que une journée, deux journées par semaine pour garder le service. Et donc, il y a des formes. Il y a même d'ailleurs chez nous deux agences où tous les salariés vont le lundi, mardi, mercredi dans l'une, puis mercredi, jeudi, vendredi, samedi dans l'autre.
Comme ça, quand vous demandez un rendez-vous, vous pouvez jamais l'avoir. C'est jamais la bonne date.
Non, c'est
pas ça.
C'est calé sur les jours de marché.
Et les gens sortent
dans le sud-ouest.
Et donc, c'est important le marché. Est-ce que, en termes d'épargne, vous observez aussi des évolutions en termes de thésaurisation, par exemple?
Alors, on l'a vu avec un travail très intéressant qu'on a mené avec le Conseil d'analyse économique au mois de septembre, à qui on a mis à disposition des données anonymisées et effectivement exclusivement sur nos machines. La leçon, c'est que les hauts salaires ont épargné beaucoup pendant la période du confinement, mais aussi que le dernier décile le moins favorisé a, lui, souffert de cette période de confinement, et notamment sur l'épargne. Pourquoi? Parce que 84% d'indemnisation du chômage partiel, c'est quand même 16% qui manque, plus d'heures supplémentaires, plus d'intérim, et puis quelquefois aussi plus de travail au noir.
On pourrait dire que les Français se sont enrichis, ils ont donc théorisé, les pauvres se sont appauvris. Selon Maxime Chipoy, le président de Moneyvox que j'ai interrogé pour préparer cette émission, on observe, dit-il, que les Français gardent leur argent sur leur compte courant. Ils ne le placent pas, ils ne le mettent pas en assurance vie, par exemple, comme s'ils avaient plus trop confiance ou adopté une politique de wait and see avec quelques valeurs refuges, l'or et même le bitcoin, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que vous observez aussi?
Oui, mais ils continuent d'investir assez régulièrement sur l'assurance vie. En gros, ils mettent l'argent sur les comptes courants, les livrets et l'assurance vie, dans bien moindre mesure qu'avant. Mais c'est vrai que c'est une période d'attentisme.
Parlons de la dette. Est-ce qu'il y a un risque de crise, un peu comme on l'a connu en 1929, en 2021? Un stress test de la Banque Centrale Européenne avait montré que l'économie européenne tiendrait le choc même s'il y avait 750 milliards, disait-il, de crédits dits douteux. On peut même dire pourris. Or, on serait aujourd'hui à autour de 1400, c'est-à-dire le double. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de grande déflagration dans les années à venir?
Alors là, je pense sincèrement que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, quand même, le résultat de l'action de l'État, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, cet effort gigantesque qui a été fait, c'est que il y a beaucoup moins de crédits pourris qu'avant. C'est que les trésoreries, paradoxalement, vont bien, même si l'activité va mal. Et donc, je pense qu'il faut regarder le cœur de notre problème aujourd'hui, c'est l'activité, et c'est pas la trésorerie.
Donc c'est pas une crise bancaire, c'est une crise...
C'est pas du tout une crise bancaire, c'est une crise qui est purement économique et dans laquelle les banques ont fait leur boulot, et je rends hommage à tous les concurrents, l'ont bien fait. Il y a eu des moratoires, il y a eu des reports d'échéances, il y a eu des prêts garantis par l'État. Mais vous voyez, le cœur de la question aujourd'hui, on le voyait sur la culture tout à l'heure, c'est l'activité, c'est d'ouvrir.
Mais en même temps, il y a beaucoup d'entreprises, et c'est peut-être ça à quoi on faisait référence en évoquant ces crédits pourris. Il y a beaucoup de PME qui sont sous perfusion bancaire, on appelle ça même dans votre jargon, je crois, les zombies. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que tout ça tourne mal?
Mais le cœur du risque, c'est l'activité. C'est pour ça que...
Donc il faut reprendre l'activité, mais si elles ne reprennent jamais, ces entreprises...
Mais c'est là où elle doit reprendre, même de manière dégradée. Regardez sur le secteur de la restauration, par exemple, le click and collect, ça permet de mettre un tout petit filet d'activité qui permet de maintenir quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette logique de mode dégradé. Quelquefois, on est trop blanc et noir. La réalité, c'est que on peut fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Le Crédit Mutuel est resté à 95% ouvert au moment du premier confinement, alors qu'on est très implanté dans l'Est et qu'il y avait le virus partout. Mais on l'a fait rideau fermé pour qu'on ne puisse intervenir que sur rendez-vous. Le résultat, c'est que les clients ont été accompagnés. Bon, c'était pas le mode de fonctionnement idéal, mais je pense qu'il faut qu'on ait tous cette attitude de mode dégradé. On n'est pas dans le pourri, on n'est pas dans la grande crise, on est dans le traitement d'une crise.
En 6 mois, finalement, peut-être même en quelques semaines, on a beaucoup changé, on a beaucoup avancé, comme si on avait pris peut-être sur notamment les questions numériques, notre rapport au travail à distance, etc. 6 années, tout ça aurait été fait peut-être en 6 années, tout ça s'est fait si rapidement.
C'est un très grand basculement. Les points qui me frappent, c'est que les limites traditionnelles ont sauté. De génération, par exemple, sur l'usage des outils numériques. On voit bien que les générations, même âgées, se débrouillent très bien de ce point de vue-là. On voit bien que les modes de consommation et l'exigence du consommateur s'est simplifié. Que maintenant, la promesse des marques, on en parlait tout à l'heure, est fondamentale. Donc il y a eu beaucoup de basculements, on les a pas encore tous mesurés, et je pense qu'on gagnerait à prendre un peu le temps du diagnostic sur beaucoup d'entre eux.
C'est ce que vous faites, j'imagine, dans des banques comme la vôtre, pour préparer justement ces plans, le fameux plan dont on parlait à l'époque. François Bayrou, aujourd'hui, est aussi en charge d'un plan quinquennal, ou comme on le disait dans les grandes années 80, par exemple.
Mais je pense, par exemple, les zones blanches du numérique, les réseaux. On s'est précipité sur la 5G, mais moi je suis d'accord avec Martin Bouygues quand il disait il faut investir d'abord sur la 4G pour tous. Et je pense qu'on a comme ça des domaines où il faut veiller à être solidaire, parce qu'on voit bien que les facteurs d'exclusion, les facteurs d'intégration dans la société ont évolué. La société numérique que vous présentez souvent dans cette émission, et à très juste titre, elle peut aussi exclure. Et nous, le pari qu'on fait, c'est d'essayer de garder une logique d'inclusion, y compris sur le numérique.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Je vous propose de parler maintenant des néobanques ou des banques en ligne ou de l'open banking. Et je vous propose de rejoindre Alexandre Pro, qui est le fondateur, cofondateur et directeur général de Conto, une de ces néobanques. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Alors, néobanque, ça vous convient comme nom pour un établissement de paiement comme le vôtre ?
Oui, effectivement, c'est le terme consacré, je pense, maintenant.
C'est une start-up qui a quoi, 4 ans d'existence, c'est ça?
Exactement. Donc, on a créé Conto avec mon associé Steven Avi en 2016 et on a lancé le service en juillet 2017. Donc, effectivement, un peu plus de 3 ans d'existence, en tout cas du service, et 4 ans pour l'entreprise.
Vous étiez 2 au début, vous êtes combien aujourd'hui?
On était 2 au début, on est un peu plus de 250 aujourd'hui. Dans notre bureau à Paris, et avec aussi une partie de l'équipe qui est en télétravail, indépendamment de la crise actuelle. Mais la plupart des gens sont à Paris.
Alors une néobanque, pour revenir à sa définition, c'est quoi? Essentiellement par smartphone ou au pire par ordinateur. C'est essentiellement un compte courant, il n'y a pas d'épargne, on ne peut pas avoir donc de découvert et généralement pas de chéquier, c'est ça?
Oui, alors il y a différents types de néobanques, mais effectivement souvent les néobanques, en tout cas depuis quelques années, sont des établissements qui en général sont des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique, et donc qui ont un agrément qui est différent de celui des établissements de crédit, qui est le terme consacré pour les pour les banques, ce qu'on appelle banques traditionnellement. Et donc, effectivement, les néobanques, en général, proposent un compte courant, des moyens de paiement et des outils associés, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Nous, chez Conto, on s'occupe des entreprises. On est vraiment focalisé sur cette clientèle, mais il y a aussi des néobanques pour les particuliers.
Oui, comme N26, Revolut, la Banque d'Orange et bien d'autres. Vous êtes spécialisé sur les entreprises. Et du coup, c'est peu cher, voire parfois gratuit. Quel est du coup le modèle économique si c'est peu cher et que vous achetez beaucoup de clients, hein, comme on dit, en masse en ce moment? Comment vous avez une rentabilité?
Le service est effectivement souvent moins cher que les banques traditionnelles, mais je pense qu'il est surtout à un tarif clair et transparent. Et en l'occurrence, dans notre cas, Conto, tous nos clients payent le service. C'est des abonnements mensuels qui vont de 9 à 99 euros selon la taille et les besoins de l'entreprise. En revanche, la tarification est très simple. Donc, je disais, pas de frais cachés, pas de commission de mouvement, par exemple. Donc, c'est évidemment des éléments important pour nos clients, à la fois pour l'aspect tarifaire, évidemment, mais aussi pour l'aspect psychologique, de vraiment bien comprendre pourquoi on paye. Nous, nos clients n'ont pas de problème, entre guillemets, à payer, mais ils veulent comprendre pourquoi ils payent, savoir à la fin du mois à quoi correspond chaque ligne sur leur relevé. Et c'est effectivement cette simplification qui leur plaît, je pense, beaucoup dans les néobanques, encore plus que le chiffre, entre guillemets, en euros, qui vont véritablement payer. Et donc la tarification est un des éléments importants des néobanques. Je pense que les deux autres éléments vraiment clés sont le produit, donc les applications mobiles ou les applications web, le site internet des néobanques. Et puis le deuxième élément, ou le troisième avec le tarif, c'est vraiment la qualité du service client, notamment chez Conto. Le service client, c'est vraiment un des points clés, avec un service client qui est disponible 7 jours sur 7, extrêmement réactif, avec des conseillers qui sont vraiment qui se mettent à la place de des clients, j'allais dire qui se mettent dans les chaussures des clients, et c'est ce qui fait qu'on a une satisfaction client vraiment très importante, à la fois en France, mais aussi dans les trois autres pays dans lesquels on a ouvert le service, qui sont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.
Alexandre Pro, dernière question, parce que nous sommes un petit peu en retard, pardon, mais vous venez de lever 136 millions d'euros, je crois. C'est essentiellement pourquoi? Pour les développements techniques, donc numériques, informatiques, qui doivent être très développés dans des startups comme les vôtres?
Oui, alors on a levé des fonds pour trois raisons. La première, c'est effectivement de recruter des équipes pour développer et améliorer le produit en permanence, avec le lancement de nouvelles fonctionnalités, comme ça arrive à peu près tous les mois chez Conto. Le deuxième élément, c'est évidemment de se faire connaître et donc de faire un petit peu de marketing, de publicité, que ce soit en ligne, sur Internet ou sur des canaux plus traditionnels comme la radio, par exemple, où on a fait une petite campagne il y a quelques semaines. Et puis le troisième élément, c'est que comme on est un établissement réglementé, agréé par la CPR et la Banque de France, on a besoin d'avoir un matelas de sécurité qui garantit la solidité, la robustesse de notre entreprise. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a levé effectivement ces 136 millions dont vous avez parlé.
Merci infiniment Alexandre Pro, le patron, directeur général et cofondateur de Conto, qui vise à simplifier, c'est votre slogan, la vie des petites entreprises. Merci d'avoir été avec nous par téléphone. Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel, est mon invité ce soir. Là, on a l'exemple d'une banque en ligne, une néobanque. Est-ce que les banques traditionnelles, mais en même temps, on peut peut-être pas vous le reprocher, ne se sont pas un peu tiré une balle dans le pied en incitant leurs clients à être numérisés, à tout faire sur leur smartphone et leur banque en ligne, finalement, pourquoi pas passer à une banque totalement en ligne qui en plus coûte souvent moins cher?
Alors on s'est numérisé, vous voyez, on a la meilleure note sur les stores
et l'application, ouais.
Des applis.
Ouais,
au fond, la numérisation, c'est une réalité pour tout le monde, qu'on soit néobanque ou banque traditionnelle.
Ou archéobanque comme vous.
Voilà, on est à la fois archéo, présente et néobanque. On fait tous les services pour tous les clients sur la durée. Et quand on est une entreprise, je vais peut-être vous choquer, mais c'est plus important de savoir combien on a de crédits pour quelle durée, avec quelle sécurité, que d'être à 2 euros près sur le montant. Ce qui compte, c'est l'accompagnement sur la durée. Et je vais vous donner une anecdote, c'est que évidemment, on a beaucoup de clients entreprises, grandes entreprises, et certains chefs d'entreprise disent, moi, ce qui compte, c'est le montant, la durée, le prix, d'accord, on le négocie. Mais ce qui compte, c'est que je sais que dans les périodes difficiles, vous serez là, une illustration, 19 milliards de prêts garantis par l'État, octroyés par le Crédit Mutuel depuis le mois de mars.
La Société Générale vient d'annoncer la fermeture de 600 agences physiques regroupées avec le Crédit du Nord. Là, ce n'est pas votre approche. Vous voulez au contraire maintenir vos agences. Vous en avez combien et quelle baisse vous prévoyez dans les 10 ans à venir?
On a 4000 points de vente, caisses ou agences.
En France?
En France. On perd à peu près 0,7% par an.
Donc vous voulez les conserver?
Et on veut les conserver.
Et donc, pourquoi?
Il y a des endroits...
Ça veut dire que vous croyez à la présence physique?
Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas présence physique, téléphonique ou numérique. Il y a présence. Et c'est le même conseiller, le même chargé de clientèle qui va s'occuper de vous sur le plan du rendez-vous
physique. Il reste quoi? 6 à 7 ans, c'est ça, on dit chez vous, alors que parfois, ils changent tous les mois dans certaines...
Ils restent plus longtemps, ils font bien leur métier, ils ont à peu près 600 clients en relation, et surtout, ils sont responsables de l'intégralité de la relation. Et pour nous, c'est un point fondamental.
Mais c'est quoi? C'est maintenir la relation, comment dire, client à l'ancienne?
La relation client. La relation client pleine, c'est-à-dire la confiance. C'est quoi la relation client? Fondamentalement, c'est de la confiance. Et notre métier, fondamentalement, c'est un métier de confiance, puisque on recueille votre épargne et on essaie de la faire fructifier, de la protéger. On vous propose des prêts en espérant que vous nous rembourserez. Et tout ça, je dois créer de la confiance avec le client sur la totalité de sa vie.
On manque un peu de temps pour tout traiter, mais mes 3-4 questions rapides pour terminer. On a évoqué les GAFA, on pourrait évoquer Libra, la monnaie de Facebook qui vient de changer de nom. C'est une avancée ou un problème?
C'est un problème majeur.
Pourquoi?
Un problème majeur, c'est une entreprise privée qui se donne le privilège de battre monnaie. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit très clair.
Ça, c'est le rôle de l'État.
C'est le rôle de l'État. Et regardez, Friedrich Hayek, qui était un économiste de notre génération en 1978, qui avait plaidé pour la privatisation de la monnaie. Chaque fois qu'on a privatisé la monnaie, il y a eu une crise financière. Et moi, je crois que la Banque centrale est un progrès social, parce que c'est la solidarité monétaire. Et donc, c'est vrai, personnellement, je trouve que le Libra, même rebaptisé Diem ou Carpe Diem ou que sais-je encore, est un vrai recul, un recul de souveraineté. Et on sait que la souveraineté, c'est tout de même un concept qui, à la fin, protège les plus faibles.
Et puis souveraineté, solidarité, c'est pas très loin. Les données, il y a le débat de ces données. Vous avez choisi, vous, de les garder en France au maximum, et c'est possible?
Oui, on a des serveurs qui ne sont qu'en France. La promesse vis-à-vis de nos clients, c'est de ne pas commercialiser les données. D'ailleurs, la promesse, c'est aussi de ne pas...
Donc il y a un secret bancaire et une intimité numérique, c'est le même combat, finalement?
Oui, le métier bancaire, c'est deux choses. C'est secret bancaire et devoir de conseil. Et protéger les données, c'est respecter le secret bancaire et assumer son devoir de conseil.
Mais plutôt que de mettre dans un cloud, il vaut mieux le garder dans ses propres machines. C'est encore plus prudent, non?
Même si nous, on met un cloud dédié et sécurisé sur nos machines. Et je crois que les serveurs ont une nationalité et j'espère que l'Europe va faire prévaloir ce point de vue, à la fois pour des raisons climatiques, parce que avoir des serveurs en proximité, c'est aussi moins d'intensité d'énergie. Mais je pense qu'on a un vrai combat à mener là-dessus.
Une question sur l'intelligence artificielle, pratiquement pour terminer. Depuis 4 ans, vous avez lancé un plan quasi industriel quant à l'intelligence artificielle. Ça vous a permis d'économiser, on lit dans vos communiqués, 600 équivalents temps plein de gagnés. À quoi ça sert d'économiser des temps pleins et de mettre de l'intelligence artificielle partout?
De libérer du temps de relation, d'améliorer la qualité du conseil et finalement de permettre à nos salariés, à nos clients, au lieu de passer leur vie sur leur ordinateur à remplir des formulaires, eh bien d'avoir du temps pour...
Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, l'intelligence artificielle, pour économiser ce temps-là?
Elle simplifie notamment toutes les procédures. Elle permet de répondre aux questions des clients, qui sont les questions qui reviennent tout le temps, pour libérer du temps pour répondre.
Elle lit les documents, par exemple, si on met une pièce d'identité, oui, il y a une reconnaissance.
Ça, c'est la reconnaissance visuelle des caractères.
Donc, ça permet d'aller plus vite et d'éviter de ressaisir tout ça, de vérifier.
Exactement. Mais vous
c'est
voyez.
Ce que font très bien les néobanques, d'ailleurs, vous savez aussi.
On s'est donné comme raison d'être écouter et agir. Et pour écouter, pour agir, faut libérer du temps et faire que nos salariés soient disponibles vis-à-vis des clients.
Vous avez annoncé un partenariat avec Bouygues Télécom, qui existait d'ailleurs pour une part, mais qui a été renégocié. C'est le métier, finalement, d'une banque de vendre des forfaits de téléphone portable?
Oui,
c'est la Poste le fait aussi, et d'autres le font.
c'est le métier d'une banque comme le Crédit Mutuel d'être dans le service de proximité. Donc la banque, l'assurance, le téléphone, la protection du domicile.
On n'a pas parlé des assurances, ça serait un trop long sujet et on a sans doute un manque de temps, mais vous avez été un peu en guerre, la fronde, hein, en fronde contre AXA notamment, et vous êtes vous-même devenu un peu l'ennemi numéro un des assureurs parce que vous avez proposé aux restaurateurs, notamment aux patrons des cafés, d'obtenir une indemnité, ce que AXA ne voulait pas faire. Tout ça a été discuté et tranché finalement par le gouvernement cette semaine précisément. Quelle était la logique de ce combat ?
À la logique des clients, on n'a pas cherché à mener une guerre. On n'a pas cherché à donner des leçons à qui que ce soit.
Vous avez voulu indemniser vos clients, ce qui était...
Pas indemniser. On a voulu permettre qu'ils reprennent leur activité. On a décidé ça le 21-22 avril. Et notre obsession, c'est que des gens qui n'avaient plus de trésorerie, plus suffisamment de trésorerie, qui nous avaient fait confiance en souscrivant un contrat d'assurance à forte garantie, aient les moyens de redémarrer. Et je pense qu'à la fin, cette logique-là était la bonne. Alors, 27 000 clients qui ont bénéficié de 170 millions d'euros. Mais cette logique-là, c'est vraiment la logique de l'assurance. C'est que finalement, on a des contrats qui ne sont pas les moins chers. Vous l'avez souligné avec un petit sourire en début d'émission.
Non, c'était de l'ironie même.
que j'ai bien entendu. Mais la contrepartie de ça,
c'est le service.
Quand il y a un coup dur, eh ben, faut qu'on soit là.
Dernière question, l'environnement, c'est une des priorités. Et ce dimanche, ce sont les 5 ans des accords de Paris sur le climat et la COP21.
Ah, l'environnement, c'est pour moi un combat majeur. C'est-à-dire, si Raiffeisen revenait dans cette salle et réinventait notre mutualisme, mutuel, ouais. Notre fondateur, eh bien, je pense qu'il mettrait la lutte contre le changement climatique au premier rang.
Et on peut faire quoi quand on est banquier ? On n'investit plus dans les entreprises qui sont polluantes, par exemple ?
Exactement. On a, par exemple, supprimé toute relation avec les entreprises charbonnières en début d'année ou les hydrocarbures non conventionnels. On s'est donné comme objectif de... Alors, c'est un mauvais franglais de décarboner le bilan de 15% comme les accords de Paris le prévoient d'ici 2023 et on va continuer.
Mais Total est actionnaire de votre groupe, je crois, via vos assurances. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, Total n'est pas actionnaire du Crédit Mutuel qui appartient à ses clients. Donc, peut-être
non,
que
c'est plutôt
les
vous
salariés...
qui êtes présents. Pardon.
Alors, nos assurances et notre gestion d'actifs a des participations chez Total.
Chez Total, ouais.
Et on est intervenu à l'Assemblée Générale. Et c'est vrai qu'on a un dialogue avec Total qui est un dialogue de qualité.
C'est pas un dialogue de sourds.
Non, pour mener une transition et pour assumer cette transition. Et j'ai vu qu'ils avaient un objectif de neutralité carbone et on va beaucoup pousser à ce que ces objectifs soient réalisés.
Nicolas Théry, je vous propose, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, je vous propose maintenant d'écouter François Hesbourg qui nous rejoint.
Soft Power, le village global.
Le village global, le segment, la séquence internationale de cette émission centrée sur les débats d'idées et la culture au niveau global, car le monde est un village global. Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Vous publiez Le Temps des prédateurs aux éditions Odile Jacob, le sous-titre La Chine, les États-Unis, la Russie et nous. Ces prédateurs, ils sont sur la couverture de votre livre. Nous, on est quoi ? On est les victimes de tout ça ?
Nous sommes a priori l'objet de la prédation. On n'est pas obligé d'être des victimes. Hein. Ça, on a quand même quelques défenses. Et il faut en jouer. Mais nous ne sommes de toute évidence plus dans le groupe de pays qui pouvaient nourrir des ambitions impériales ou impérialistes. Hein, le temps de l'Empire est passé pour les États européens.
Mais ces prédateurs, ça veut dire qu'ils sont, on a l'impression qu'ils sont identiques, comme si la Chine, les États-Unis et la Russie, ils étaient équivalents en termes de prédation.
Bon, les trois pays sont naturellement très, très différents. N'importe quel.
Distinguez dans votre livre, bien sûr.
Mais par contre, la prédation, elle, est une caractéristique qui leur est commune. Hein. La prédation, c'est quoi ? C'est pas forcément l'inimitié. Hein. Ce n'est pas forcément le fait de se trouver dans un rapport de confrontation. Par contre, la prédation, c'est ce qui arrive quand tel ou tel a faim et que tel ou tel autre n'est pas en mesure de se défendre contre l'appétit de celui qui a faim. La Chine a de toute évidence très faim. La Russie, elle, a des projets révisionnistes, hein, qu'on a vu à l'œuvre en Europe récemment, les années 2014-2015, l'Ukraine, la Crimée. Et les États-Unis, tout en étant notre allié, en étant un pays ami, déploie au plan monétaire, au plan de sa juridiction, des comportements qui sont des comportements de prédation, notamment à l'encontre des États et des entreprises européennes, et le cas échéant des banques européennes, qui auraient la prétention d'opérer avec des clients ou des partenaires qui auraient l'heure de ne pas plaire aux États-Unis.
Quels sont, François Hesburgh, les domaines, les terrains de chasse, si on peut dire, de ces prédateurs?
Alors, la prédation, elle s'exerce effectivement sur des terrains de chasse très, très divers. Je viens d'en citer un, qui est celui de la domination, j'allais dire, juridico-financière, hein, qui est plutôt l'apanage des États-Unis. La prédation, c'est la prise de contrôle des technologies disponibles à l'étranger et, le cas échéant, l'imposition de ses propres choix technologiques industriels par le pays prédateur. Ça, c'est notamment la Chine, qui a tenté d'imposer et qui tente toujours d'imposer à l'Europe un choix chinois en matière de 5G, qui est quand même la colonne vertébrale de l'économie numérique de la prochaine décennie. Et la Chine a tenté de nous obliger à prendre, à acheter chinois, alors que l'Europe, une fois n'est pas coutume, est parfaitement compétente dans le domaine de la 5G, avec deux grandes entreprises, en l'occurrence scandinaves, qui sont parfaitement capables de vendre de la 5G, y compris par exemple en Asie. Ça, c'est la prédation à la chinoise. Et bien sûr, la prédation russe, elle est, j'allais dire, plus classique. Elle est un peu à l'ancienne. Il y a un territoire dont vous estimez qu'il vous appartient. Vous mettez la main dessus, c'est ce qui est arrivé avec la Crimée. Vous voulez influencer la vie politique de tel ou tel pays qui vous donne du fil à retordre et ben, vous débrouillez pour qu'une de vos banques prête de l'argent à tel ou tel parti politique.
Et puis, il y a aussi des hackers qui interviennent et qui agissent. Peut-être, pardon, on est un peu en retard, François Hesburgh, pour terminer. Dans votre livre, vous revenez à plusieurs reprises sur la 5G, vous l'avez dit, plus largement sur le numérique. Mais est-ce qu'un changement de président aux États-Unis va modifier votre analyse des relations nationales de ces prédateurs?
Alors, dans certains domaines, les choses vont redevenir un peu plus civilisées. Les rapports seront a priori moins brutaux. Mais l'utilisation de la capacité américaine de structurer le système financier et monétaire international, ça va demeurer. Et les pratiques prédatrices en la matière n'ont pas été créées par sous la présidence Trump. Elles ont été diffusées dans les années précédentes, et notamment pendant les deux mandats du président Obama. À l'inverse, il y a des domaines, j'allais dire, d'intérêt collectif, et je pense notamment au réchauffement climatique, où là, le fait que les États-Unis changent de président, les Européens et les Américains vont, là, pour le coup, pouvoir travailler ensemble, plutôt que d'en être réduits à des rapports de prédation climatique.
Et à des tweets. Merci François Hesburgh. Le temps des prédateurs, c'est le titre du livre, sous-titré La Chine, les États-Unis, la Russie et nous. C'est publié aux éditions Odile Jacob. On termine cette émission avec vous, Nicolas Théry. Une toute dernière question, peut-être sur la dette. On l'a évoqué à un moment. Vous avez signé en avril dernier une tribune avec l'économiste Daniel Cohen dans Le Monde sur la dette Covid en proposant l'émission d'une dette publique qui soit étalée sur la très longue durée, 50 ou 100 ans. Autre particularité, vous proposiez que les investissements climatiques y soient associés.
Oui, j'ai un grand espoir, c'est que la Banque Centrale Européenne, qui a aussi beaucoup travaillé pour empêcher une crise financière, eh bien, s'implique sur ces questions, porte cette dette sur la durée, et c'est toujours pareil. Une dette dépend de la rentabilité de l'investissement qu'elle finance. Et je pense que investir pour la transition climatique, c'est un excellent investissement.
Ça renvoie à une phrase célèbre de la correspondance de Rimbaud, où il demande une économie positive. Très belle phrase, très belle formule.
Je ne la connaissais pas, mais...
Eh bien voilà.
Relire Rimbaud, promis.
Moi, je ne connaissais pas le Crédit Mutuel, ce n'est pas ma banque, mais qui sait, j'ai peut-être... Je ne sais pas ce que je perds, en tout cas, vous connaissez une phrase de plus. Merci, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Nicolas Théry. Je rappelle que vous êtes le président du Crédit Mutuel.
Merci beaucoup, Frédéric, et merci de m'avoir donné cette opportunité de sortir de ma zone de confort.
Merci à Maxime Chipoy, président de Moneyvox, qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Alexandre Pro, cofondateur de la start-up bancaire Conto. Merci à Aziz Ridouan et à vous, donc Nicolas Terry, d'avoir accepté ce long dialogue ce soir. La semaine prochaine, dans Soft Power, je recevrai le penseur de l'art contemporain Nicolas Bourriaud et le jeune chanteur / rappeur / écrivain / poète Gaël Faye. C'est la fin de cette tranche d'actualité. Dans un instant, Guillaume Erner. Et demain matin, c'est Jean-Michel Blanquer qui sera l'invité des Matin de France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.